7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de ceux que vous regardez avec passion sur Internet. Les youtubeurs, ce sont des humoristes, des joueurs en ligne, ça peut être des créateurs de mode, des poètes ou de simples vidéastes, même les politiques s'y mettent. Ils ont pour certains d'entre eux des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés, voire des millions sur leur chaîne YouTube et sont parfois devenus célèbres du jour au lendemain. Alors comment expliquer le succès de ces stars du net sur YouTube ? Des garçons et des filles sortis de nulle part, qui ne doivent leur notoriété qu'à Internet. Nous allons leur donner la parole. Qui sont-ils dans la vraie vie? Où puissent-ils leur inspiration pour vous séduire? Et bien sûr, les voisins, on attend vos témoignages. Quels sont les vidéastes que vous aimez et pourquoi? Dans le studio, je devrais en principe accueillir en chair et en os dans quelques minutes s'il parvient à s'extraire des embouteillages.
Nous sommes les 3T, fils cachés de Papa Wemba, représentants de la délégation des sapeurs du monde. Équilibre, notre délégation est composée des sapeurs de tous les horizons. Sapeurs du monde arabe, sapeurs d'Amérique latine, sapeurs pompiers. Équilibre.
Dikosh, youtubeur, humoriste franco-congolais, diplômé d'un master en achats internationaux. Il va nous raconter comment il s'est retrouvé à faire talentueusement le pitre sur Internet. Nous sommes également avec Solange.
Le lieu commun qui revient le plus souvent lorsqu'on compare le français de France au français parlé au Québec, c'est... les Français utilisent plein d'anglicismes. Les Québécois, ils ont à cœur de parler français, ils traduisent tout.
Bonjour Inami Alash.
Bonjour.
C'est votre vrai nom, alias Solange. Vous êtes youtubeuse, poétubeuse, on peut dire.
Oui, c'est le néologisme que j'ai inventé.
C'est ça. Vous êtes en liaison avec nous à Lille grâce aux moyens techniques de France Bleu Nord. Votre chaîne Solange te parle raconte les errements d'une fille à laquelle beaucoup de gens, d'ailleurs beaucoup de filles, dans lesquelles se reconnaissent finalement. Et vous avez même publié un livre qui s'appelle « Très intime » aux éditions Payot. Et vous êtes franco-québécoise ?
Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, j'ai toujours pas de... En fait, j'ai une carte de résidence de 10 ans en France, mais je ne suis pas française.
Rien ne vous prédestinait en tout cas à poster sur le net. Vous étiez étudiante en histoire de l'art. Et puis justement, pour causer cinéma avec impertinence, il y a le fossoyeur de films.
Salut à tous, ici le fossoyeur et aujourd'hui, refripons, nous allons parler des clichés au cinéma. Un monde fascinant où les flingues sont des portes dimensionnelles ouvertes sur des stocks illimités de munitions et où les bagnoles sont toutes des caissons de TNT ambulants qui attendent fébrilement une seule chose.
Bonjour François Torel.
Bonjour.
Le fossoyeur de films.
Très anciennes vidéos.
C'est ça, c'est bien vous, le fossoyeur de films. Vous êtes à Avignon grâce aux moyens techniques de France Bleu Vaucluse. Et puis dans le studio aussi, Stéphane Bouillet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes fondateur d'Influence for You, une des premières agences qui a été créée pour aider les youtubeurs à trouver des sponsors. En fait, vous êtes un agent, c'est ça, pas pour joueurs de foot, mais pour youtubeurs.
Oui, tout à fait.
On peut dire ça comme ça. Nous retrouverons aussi au téléphone Frédéric Ojardin, qui sera en direct de Séoul où les Coréens ont de curieuses pratiques vidéo sur le net, notamment celle de se filmer en train de manger, et il paraît que ça rapporte de l'argent. Vos coups de cœur, en tout cas à vous les voisins et les voisines, vos youtubeurs préférés, dites-nous aussi pourquoi vous reconnaissez dans ces personnages. 33 1 84 22 71 71 et tous vos messages bien sûr sur les réseaux sociaux. Solange, vous venez du monde professionnel de la vidéo, vous, au départ, c'est bien cela, mais vous faisiez de la vidéo d'art.
Oui, en fait, j'ai un parcours assez hybride, donc j'ai fait de l'histoire de l'art, ensuite quand je suis débarquée à Paris, j'ai plutôt fait une école d'acteur, et puis petit à petit, j'ai commencé à travailler comme technicienne pour la télévision, monteuse et cadreuse pour des documentaires. Et j'ai commencé à avoir ma pratique en solitaire d'artiste contemporaine, mais j'avais un mal fou à diffuser mes œuvres. Mmh. Et c'est là où j'ai rencontré Internet et YouTube en particulier, et où j'ai eu un déclic en me disant que c'était parfaitement démocratique et que tout ce que je faisais, je pouvais possiblement le mettre à disposition du monde entier.
Quand vous dites diffuser mes œuvres, vous aviez le sentiment qu'on ne vous laissait pas d'espace pour vous exprimer ?
Ah bah oui, le réseau des galeries, enfin comme ça l'est aussi dans l'industrie du cinéma, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir la permission de faire, d'être diffusé, de convaincre tel ou tel, d'apporter des preuves de son sérieux, de séduire. Alors que sur Internet, il suffit d'avoir une connexion, un tout petit peu de compétences techniques, un minimum de matériel. Et personne ne vous demande si vous méritez d'exposer ce que vous faites.
Alors justement, Solange, comment vous pourriez résumer ce que vous proposez aux internautes sur votre chaîne YouTube « Solange te parle » ?
Vous avez dit Hermin, je trouve que c'est assez juste. C'est entre un journal philosophique au quotidien, assez intime, où les questions de culture, de philosophie, du minuscule, du quotidien, et puis des questions peut-être un peu plus engagées par moment, de féminisme, de culture. Il y a un humour
Ce sont les errements d'une fille comme les autres, mais qui se sent tellement différente de toutes les autres.
Alors oui, enfin, on dirait fille, mais moi mon public est particulièrement mixte et j'y tiens. Je crois que je suis à 40% d'hommes et 60% de femmes.
Les garçons qui veulent savoir comment fonctionnent les filles dans leur tête, c'est ça ? Quels nœuds à la tête elles se font ?
Non, justement.
Parce que vous faites beaucoup de nœuds à la tête, Solange, non, quand même, dans vos vidéos.
Oui, c'est quelqu'un qui se pose des questions, mais que se pose tout un chacun, pas plus les filles que les garçons, je crois. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, peu importe leur sexe.
Ouais. Alors, Dicoche vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour, Dicoche.
Bonjour, désolé pour le retard.
Non, mais c'est bon, vous étiez coincé dans les embouteillages. Ouais. Alors, parlez bien devant le micro, il faut le remonter. Alors, on a des spécialistes. Oh là là, il va casser le micro. Ils sont tous spécialistes de vidéo, mais alors, pour parler dans un micro à la radio.
La technique, c'est pas pour nous, par contre.
Dicoche, justement, je vous ai présenté comme youtubeur, humoriste, vous êtes franco-congolais. Vous connaissez bien l'univers de la sapologie, hein. Vous en avez fait un vrai fonds de commerce humoristique. Comment vous êtes tombé là-dedans finalement? Puisque j'ai dit en introduction, quand vous étiez dans le taxi, que vous étiez diplômé d'un master en achats internationaux au départ. C'est l'ennui qui vous a conduit sur YouTube?
Peut-être, oui, en partie.
Enfin, parlez bien devant le micro.
Je suis pas assez proche du micro.
Non, si, c'est bien, mais vous étiez pas en face tout à l'heure.
Ok, d'accord. J'ai fait de longues études, j'ai arrêté, enfin, j'ai eu mon master et j'ai commencé à travailler. Pour faire bref, j'ai commencé à travailler dans une banque et je m'ennuyais un peu en tant qu'acheteur de prestations intellectuelles. Et donc, du coup, j'ai pas continué, j'ai tout stoppé. J'avais fait énormément de sport quand j'étais plus jeune et peu avant, à l'école, en primaire, on nous avait initié au théâtre, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai pas pu continuer à cause du sport. Et quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit pourquoi pas reprendre, c'est maintenant ou jamais.
Sauf que vous avez cherché par des canaux classiques, en fait, à être comédien. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai passé énormément de casting. J'ai passé énormément de casting, c'est pas vrai. J'ai cherché beaucoup de casting, j'en ai passé très peu. Et y a très peu de rôles qui correspondaient à mon profil. Pour ne pas dire jeune afro, tout simplement. Il y avait très peu de rôles. Et donc, j'étais un peu frustré parce que j'avais cette envie de jouer la comédie et j'avais pas l'occasion de le faire. Donc, ma réflexion est partie de là. Et surtout, avant de faire des vidéos, j'ai commencé par faire de la scène, en fait.
Ouais.
Du stand-up. Et ouais. Je continue toujours à en faire, d'ailleurs. C'est de là que je viens à la base. Et donc voilà, et j'avais aussi cette problématique.
Donc en fait, vous avez décidé d'écrire pour vous-même, finalement.
Exactement.
Vos propres rôles, vos propres histoires.
Exactement, c'est comme ça que c'était ma réflexion. J'arrive pas à en décrocher par le schéma classique.
Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes toute une petite bande sur vos vidéos.
Ouais.
Qu'est-ce qui écrit les textes là? Qu'est-ce qui invente il garde ses chaussures dans un frigo, etc.
Ça, c'est encore une de mes bêtises, ça. mais oui, l'idée c'est que je travaille sur mes projets. Après, je le soumets à des comédiens et lors des tournages, ils sont libres de proposer des choses.
Mais vous avez l'impression, vous Dicoche, vous Solange, que c'était la société était trop verrouillée pour vous laisser la parole aux uns et aux autres. Et c'est YouTube qui a tout ouvert pour vous, Solange?
Pour moi, oui, mais je crois que contrairement à Dicoche, c'est qu'aussi j'avais une...
Bonjour Solange.
Bonjour. J'avais peut-être pas des facultés sociales assez abouties. Je ne savais pas vraiment m'entourer. Je n'avais pas envie de chercher les castings. J'étais une solitaire, en fait, et j'avais envie de faire à ma façon. Donc, pour moi, YouTube, c'était la vitrine et l'atelier idéal pour m'exprimer parce que j'avais... Parce que virtuellement,
vous n'entriez pas dans le moule du monde classique pour s'exprimer en tant qu'artiste. Pour vous, Solange, mais vous, Dicoche, aussi d'une autre façon, non ?
Je ne sais pas si c'est entrer dans le moule ou pas. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Je ne sais pas s'il y a... Enfin, comment dire ? Il n'y a pas énormément d'opportunités, en fait. Alors que sur YouTube, pour Internet, tout simplement, pour ne pas dire que YouTube, sur Internet, il me semble qu'elle le disait juste avant, quand je suis arrivé, Solange, c'est un peu la porte ouverte la porte est ouverte à tout le monde. Enfin, tout le monde a la possibilité de s'exprimer, tout le monde peut proposer. Et le seul maître, la seule personne qui peut nous juger, c'est le public, tout simplement. Mmh. C'est pas un directeur de casting ou une personne qu'on ne connaît pas. Et pour moi, c'est une vérité, dans le sens où les seules personnes qui sont censées juger l'artiste, c'est l'artiste lui-même et ensuite le public.
François Terrel, vous êtes en ligne avec nous à Avignon. Alors, pour vous parler de cinéma tout seul face à une caméra, vous faites ça depuis 4 ans maintenant.
Depuis 4 ans, oui, exactement.
Et là, pour le coup, c'est un sujet, parler de cinéma, qui est largement couvert par la presse télévisée, radio, journaux, etc. Comment vous en êtes arrivé là, finalement ?
C'est couvert d'une certaine manière, j'ai l'impression. En fait, quand j'ai commencé en 2012, ça faisait quelques années que je suivais quelques créateurs de contenu qui parlaient notamment de cinéma, mais plus à l'international, surtout des anglo-saxons, qui commençaient à populariser un format qui était assez novateur pour l'époque, qui consistait en fait à faire de la chronique cinéma qui soit à la base sérieuse dans son propos, mais avec une forme qui soit un petit peu... décalé. Il créait des personnages notamment qui étaient décalés pour ça. Et j'ai eu envie de m'inspirer de ça. Et l'envie d'écriture, ça avait toujours été là, quoi. J'ai toujours écrit sur le cinéma, j'ai toujours aimé parler cinéma, enfin toujours, depuis longtemps en tout cas. Mais j'ai eu envie de plus en plus au fil du temps de me frotter à ce genre de format. Et ce qui est bien aussi avec entre guillemets l'école vidéaste sur le web, plus que YouTube en particulier, parce que je préfère parler de vidéaste au sens large que de... YouTubeur,
on est tout à fait d'accord.
YouTubeur, ça traduit une espèce d'attachement idéologique à YouTube, alors que pas du tout, c'est juste une plateforme parmi d'autres. On pourrait tout à fait poster nos contenus ailleurs. Mais j'ai eu envie de me frotter à cette espèce d'apprentissage de la polyvalence. À la fois, on écrit, on joue, on monte, on réalise, on fait plein de choses. Et ça permet vraiment d'avoir un apprentissage super intéressant de plein de facettes de cet univers. Et c'est surtout ça qui est excitant dans cette activité.
Mais vous, Dicoche, par exemple, vous n'y connaissiez rien au départ, hein, à la vidéo, en tant que tel.
Sur la partie technique,
oui.
Ah non, ouais, je dois vous avouer que je connaissais rien. J'ai appris sur le tas et je me suis aussi associé à un réalisateur qui s'appelle Florent de France, qui lui occupait la partie technique et avec qui j'ai beaucoup appris en fait.
Mais vos vidéos, elles sont très travaillées, très chorégraphiées en fait.
Moi, j'avais, c'est un peu comme en entreprise, il y a ceux qui ont l'idée, il y a ceux qui exécutent l'idée. Moi, j'avais l'idée, je savais ce que je voulais à peu près, mais puis après, pour pouvoir le réaliser en termes de vidéo, il me fallait quelqu'un de technique. Donc oui, on réfléchit, il y a toute une réflexion sur les plans, sur ce qu'on veut montrer, sur ce qu'on veut suggérer.
Aujourd'hui, Dicoche, je vous en ai tout, question abonnement.
Oh, je sais même pas.
Oh, faites pas semblant.
Non, je sais que j'ai plus de 100 000 personnes sur YouTube et plus de 200 000 sur Facebook.
Un truc. Ouais. Et pour vous, François Terrel ?
Sur YouTube, j'ai un peu plus de 600 000 abonnés. Mmh. Et sur le réseau, je sais plus exactement, un peu plus de 100 000.
Juste pour un gars qui parle de cinéma, quoi, finalement. Hein.
Juste... Et oui.
c'est quand même un vrai phénomène. Et pour vous, Solange ?
Je crois que je suis à 250 000.
Ouais. Pour une fille qui raconte ses petits problèmes et ses nœuds à la tête, hein, d'une certaine façon aussi.
Oui, on peut dire ça.
Ouais. Mais est-ce que vous comprenez, aujourd'hui, avec le recul, hein, ça fait quand même plusieurs années maintenant que vous faites ça, quelle est l'origine, quel est le mécanisme de votre succès aux uns et aux autres,
Ah, c'est super compliqué de mettre le doigt dessus, c'est plutôt aux autres justement.
Alors on va poser la question à Stéphane Bouillet. Stéphane Bouillet, justement, vous êtes un agent de vidéaste, hein, puisqu'on ne va pas dire tout le temps youtubeur, mais c'est vrai que vous placez des marques en fait, hein, vous aidez les vidéastes à être en relation avec des marques et donc à avoir des revenus, c'est comme ça qu'on peut dire?
C'est comme ça, je vais le prendre à l'envers, je vais plutôt dire j'aide les marques à trouver les bons influenceurs qui aiment leurs produits, puisque c'est la base de tout, et qui vont avoir envie de le recommander à leur communauté. Donc, exemple, pour un livre, on va essayer de trouver une youtubeuse qui va lire le livre, qui va l'apprécier, et qui va en parler à sa communauté en exprimant voilà, son ressenti.
Est-ce que vous comprenez, vous, avec le recul, quel peut être le succès de chaînes qui sont représentées là, dans ce studio avec nous, dans notre émission ?
Il y a plusieurs facteurs, il y a l'aspect technologique déjà, il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est facile, la vidéo qui s'est développée, la 4G, il y a le talent, beaucoup, il y a la relation, la connexion entre ces influenceurs et leur communauté, et nous on a conceptualisé ça, on appelle ça le best friend effect. Donc c'est l'influenceur qui va parler à sa communauté, la suivre, éventuellement parler de sa vie ou alors montrer des aspects un peu plus créatifs.
Alors il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui se disent en vous regardant sur vos vidéos, mais en fait ils ont l'air tellement proches de nous que ça doit être très très simple de faire ces vidéos d'une certaine façon. Tout le monde pourrait les faire.
Bah. C'est le but d'Internet. Enfin, ouais, tout le monde peut faire des vidéos.
C'est juste un tout petit peu préparé et travaillé quand même.
Enfin, oui, après, ça dépend à quelle vidéo on veut faire. Si on veut faire une vidéo de soi en train de se filmer comme ça, avec son téléphone, tout ça, accessible à tout le monde.
Vous brandissez votre smartphone, ouais. Vous êtes en train de le faire, là, vous démarrez quelque chose.
Là, je peux faire une vidéo, là. Salut, je suis à RFI.
Ouais, mais c'est pas vraiment ça, en fait.
Non,
là,
après, si on veut faire une vidéo un peu plus travaillée, oui, si on veut faire. Il y a de tout, c'est comme.
Et pour vous, Solange et François Teurel, Solange ?
Bah après oui, tout le monde peut le faire, mais tenir, enfin comme c'est mon cas, sur 5 ans, un public, enfin se diversifier, s'imposer.
Ça veut dire quoi? Vous vous réveillez pas le matin en vous disant tiens, je poste une vidéo, vous y réfléchissez?
Ça m'arrive. Oui. Moi, c'est-à-dire que je me suis pas enfermée comme d'autres enfermées, ou alors je n'ai pas pris la décision éditoriale d'avoir un contenu très défini. Donc je crois que c'est aussi ce qui plaît à mon public et ce qui peut en décontenancer d'autres, c'est-à-dire que c'est très varié. Je peux publier une vidéo justement dont j'ai eu l'idée le matin, que je mets 20 minutes à tourner et qui est publiée le soir, ou alors une vidéo qui me prend un mois parce que je documente quelque chose sur un mois. Donc tout est ouvert.
Celle qui cartonne là sur votre chaîne Solange te parle.
Ah bah moi, il y a eu, vous avez passé un extrait, c'est pas celle-là, mais c'en est une autre qui parle de québécois, parce que donc je viens du Québec, et il faut croire que toutes ces questions de langage font beaucoup rire, et le Québec s'est approprié un petit peu ça. Sinon, c'est dire je t'aime, un message un petit peu plus universel. Limite,
ouais.
Enfin comme ça, peace and love.
C'est ça, avec un garçon qui est avec vous et qui n'arrive pas. Parce qu'il y en a une où c'est en gros vous.
Non, c'est pas celle-là.
Bon, il y en a une en tout cas où vous dites bah, finalement sa mère lui a jamais dit je t'aime, donc il sait pas dire je t'aime.
Ah oui, enfin je crois que vous mélangez un peu tout.
J'en ai regardé plusieurs. Hein, ceci dit, pour cette émission. Mais c'est vrai que oui, vous abordez des sujets qui sont à la fois très simples et très, très prégnants dans la vie quotidienne. Mais pour vous, François Teurel, pour vos chroniques cinéma, est-ce qu'il y a une chronique en particulier qui a cartonné?
Généralement, celle qui cartonne le plus, c'est celle qui touche le plus de gens avec des sujets qui sont plus, entre guillemets, vendeurs. Mais à mesure que j'ai eu le confort d'avoir plus de gens qui me suivaient, une communauté un petit peu plus élargie, je me suis plus dirigé vers des sujets qui étaient moins bankable, mais qui me tenaient plus à cœur. Et en fait, quasiment toutes les dernières chroniques du Fossoyeur, par exemple, sont sur des films pas forcément connus. Mais justement, quitte à maintenant pouvoir parler à une communauté assez large, ça me fait super plaisir, en fait, de pouvoir les sensibiliser à des formes de cinéma que pour certains, ils n'auraient pas abordé sinon. Mais voilà, mais sur la question de tout le monde peut le faire, bien sûr, tout le monde peut s'essayer à ça, mais ensuite,
c'était pas ce que je voulais dire, hein, c'est ça. Je voulais quand même
bien sûr.
Vous faire préciser qu'il y avait un vrai boulot derrière et surtout une écriture et une réflexion. Vous restez bien sûr tous avec nous, Dicoche, Solange, François Teurel, Stéphane Bouillet. Les voisins, les voisines, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Qui sont ces youtubeurs? Pourquoi vous font-ils rêver ou pourquoi vous vous reconnaissez reconnaissez dans leurs propos. Vous pouvez nous appeler et on se retrouve juste après le flash dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant. On ira aussi à Séoul avec Frédéric Ojardias.
Speak en français.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, on parle des youtubeurs, des vidéastes, pardon, m'ont-ils corrigé en première partie d'émission. Qui sont-ils? Comment ont-ils conquis un public, parfois petit mais qui peut aller jusqu'à des millions de fans, humoristes, observateurs de la vie de tous les jours, spécialistes de maquillage ou de cinéma? C'est le public et le public seul qui juge de leur talent ou de la qualité de leur expertise.
Amen.
Amen, c'est ça, ça vous aimez bien, hein. On retrouve ça dans vos vidéos, dit Koch. Avec humour en studio chez nous, chez 7 milliards de voisins. Ina Mialash, alias Solange te parle, qui publie aussi Très Intime chez Payot, comme quoi voilà, on est contacté par des éditeurs quand on cartonne sur une chaîne du net. Et François Terrel, le fossoyeur de films, qui parle de cinéma, sa passion, à tous les internautes. Et Stéphane Bouillet, vous êtes fondateur d'Influence for You, une agence créée pour aider les youtubeurs à trouver des sponsors, ou plutôt pour aider les grandes marques à s'infiltrer, l'air de rien, sur les chaînes qui montent des vidéastes. Voilà.
J'ai un métier un petit peu particulier, un métier qui n'existait pas il y a quelques années. Je suis auteur, comédien, réalisateur, monteur, producteur de vidéos sur Internet.
Ouais, t'es youtubeur quoi.
C'est ça.
Quand on y pense, dormir c'est un truc qui est vraiment bien. Hein, parce que quand t'es fatigué, tu dors, tu te réveilles et là-bas, t'es plus fatigué. Allez, salut, au revoir.
J'ai 23 ans et ce matin quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte soudainement que j'étais en train de devenir un adulte. Alors j'étais content.
Faux.
Bonjour à tous, ici Bonfétude. Comment ça va mon petit Ponf?
Ouais, ça va bien.
Aujourd'hui, vous pouvez le voir, il y a un écran de chargement qui ne ressemble pas du tout à celui de StarCraft 2. Et non, puisqu'il s'agit du jeu League of Legends.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette avant-dernière vidéo des 24 jours de vidéo du mois de décembre, j'avais envie de vous faire un petit ask et répondre aux questions les plus posées ces derniers temps, notamment sur Twitter. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite.
On est en ligne avec un voisin qui nous appelle de Milan. Bonjour De Fustel, c'est bien comme ça que vous vous faites appeler?
Oui, Emmanuel. Alors, c'est bien comme ça, c'est De Fustel. Bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes un vidéaste, c'est à ce titre-là que vous nous appelez?
Non, je suis pas un vidéaste, mais disons simplement que je me suis inspiré, ou bien je me suis instruit, on va dire, d'un site Bonne Gueule qui parle de mode et qui parle de construction de vêtements, de chaussures, ainsi de suite. Parce qu'il faut dire que moi-même, je suis designer à Milan. Je vis en Belgique, mais je suis designer à Milan et en même temps, égérie de plusieurs marques, entre autres, tout nouveau, mes chaussettes rouges à Paris. Donc je me suis beaucoup inspiré de cet univers-là, qui m'a en quelque sorte formé.
Mais quand vous dites que vous êtes une égérie de marques, c'est via Internet que vous faites la promotion de marques, hein, c'est ça?
Oui, bien sûr, ouais. Sur Instagram par exemple, où je suis suivi par 111 000 personnes.
Ah oui, d'accord, vous avez 111 000 followers sur Instagram.
Oui, sur Instagram, sur Internet à peu près 36 000, mais voilà.
D'accord, vous vous débrouillez bien, ouais.
J'essaie. J'essaie.
Et vous connaissez les vidéos de Dikosh qui...
Bien sûr, je connais Dikosh.
Qui fiche un peu des fans de mode, mais, en fait, hein, quand même, Dikosh.
Ben, je ne suis pas de la sapologie, c'est un concept que je combats un peu dans mon travail, parce que je parle de mode sartorial. Et on en a déjà parlé, ouais.
Oui, vous étiez intervenu, maintenant je me souviens, mais Dikosh, vous, votre discours, c'est quand même un peu plus largement de vous moquer de tous ceux qui sont obnubilés par leur image, non, Dikosh?
Oui et non, c'était un clin d'œil surtout à ce mouvement qui est la sapologie et dans lequel je baigne un peu malgré moi depuis que je suis petit, puisque mes parents sont congolais et donc... On des gènes de sapologue un peu, donc ouais. Forcément, non, oui, c'était un clin d'œil, j'essayais d'en rire sans pour autant que ça tombe dans la moquerie, et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, puisque même c'est devenu aussi des vidéos références pour les vrais sapologues, et ça a pris une ampleur qu'aujourd'hui je ne maîtrise même plus.
Alors De Fustel, vous au contraire, vous vous posez comme expert sur Internet.
C'est pas que je me pose comme expert. Je suis designer, je suis géré de plusieurs marques, comme je disais tantôt, et j'essaye de promouvoir une autre façon de s'habiller de manière recherchée sans tomber dans la folie des marques, parce que c'est aussi ça que j'essaie de promouvoir, de dire aux gens d'aller vers des artisans, vers des maisons, que vers des marques qui ont une stratégie de communication. Et je suis contre la sapologie, pourquoi ? Parce que c'est caricatural et folklorique de tout ce qu'on... Il y a des gens qui mangent même pas, mais il faut qu'ils s'habillent. Voilà, c'est un peu ça. Mais pour revenir à YouTube, c'est vraiment un média qui m'a beaucoup inspiré, même si je ne l'utilise pas beaucoup, parce que derrière, il y a pas mal de travail que je ne pouvais pas assumer, n'ayant pas les moyens, je veux dire, de payer quelqu'un, par exemple, pour faire ce travail technique-là. Donc je me suis tourné vers Instagram, Facebook, et c'est comme ça.
Et avec Instagram, vous gagnez de l'argent ou pas, alors ?
Mes comptes s'équilibrent, on va dire. Mais
ça veut dire quoi, mes comptes s'équilibrent ? J'ai pas bien compris.
C'est-à-dire que, si vous voulez... Je voyage partout dans le monde. Je travaille à Milan, je travaille à Naples et même à Paris. Tout est pris en charge. Je vais à New York travailler, tout est pris en charge par les maisons.
La dure vie d'un gars qui cartonne sur Instagram.
La dure vie, je m'en plains pas. Je m'en plains pas, même si j'aimerais avoir un peu plus, ça va venir avec le temps. Mais je vous dis c'est simplement une chose. J'ai été repéré par la maison Roberto Botticelli, qui est un chausseur de premier plan en Italie.
C'est bien, vous avez casé la marque, oui.
Oui, pour laquelle aujourd'hui je crée mes propres collections. Mais tout ça, c'est via les réseaux sociaux. Donc heureusement que ça existe. Et aujourd'hui, ça donne vraiment une possibilité aux gens comme moi qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de nom d'exister par rapport aux médias, on va dire, conventionnels, dont l'accès est quand même très très difficile, quoi, je veux dire.
Merci beaucoup de nous appeler. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Que vous soyez un pro, comme apparemment c'est le cas de Fustel, même s'il n'est pas sur la vidéo, mais il est en tout cas grâce à la photo. Ça y est, Eddie Koch est déjà en train de se connecter à Instagram pour retrouver de Fustel. Justement, Stéphane Bouillet, alors vous qui travaillez avec les grandes marques pour les aider à infiltrer les réseaux sociaux et les influenceurs, puisque tous les gens qui sont autour de nous, là, sont bien des influenceurs d'une manière générale. Comment vous réagissez à ce que nous disait de Fustel ?
C'est vrai, quand on a des communautés qui sont importantes avec des gens qui vous suivent et qui vous aiment, quand vous évoquez une marque, quand vous évoquez un livre, la communauté qui vous aime va vous écouter et va avoir sans doute tendance à vous suivre. Je vous donne un exemple dans le domaine de l'édition, justement. Nous, on le voit, hein, une youtubeuse qui va parler d'un livre, le livre va pas passer de la 3000e place sur Amazon à la 20e place. Le jour où elle publie sa vidéo. Donc on voit des impacts qui sont très importants. Il y a des influenceurs qui gagnent de l'argent comme ça, et d'autres qui bénéficient d'avantages, qui peuvent être des voyages, qui peuvent être d'avoir des produits gratuits. Ce qui est important, c'est deux choses. Un, que l'influenceur ait envie de recommander le produit, et c'est la base de tout, puisqu'il parle à sa communauté, il ne doit pas lui mentir. Et deuxièmement, qu'il informe sa communauté quand il a un partenariat rémunéré ou quand il a un produit gratuit d'une marque, de manière à rester dans cette relation de confiance. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les marques à trouver les bons influenceurs et à rentrer dans ce cadre-là, qui est un cadre éditorial où l'influenceur a envie de recommander la marque.
Où s'arrête la confiance et la sincérité. François Torel, alors vous, justement, vous êtes un e-influenceur pour les films, avec votre chaîne Le Fossoyeur de Films.
C'est ça. Et justement, la question des marques et des placements produits et ainsi de suite, c'est assez intéressant dans ce cas-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est délicat à manier selon en fait les formats qu'on fait. Et tout à l'heure, c'est assez rigolo, vous utilisiez le terme d'infiltrer, les marques qui infiltrent les réseaux et les influenceurs. Il y a quelque chose qui se fait en douce et c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a certains créateurs de contenu qui ont voulu faire passer ça très discrètement et en fait, ça se voit vraiment à 3 km. Donc maintenant, les gens jouent la transparence. Mais en fait, suivant le format qu'on fait, il faut faire attention parce que, par exemple, dans mon cas, en tant que chroniqueur indépendant, si je donne à mon public les signaux que, entre guillemets, je peux me faire acheter un avis, je me tire une balle dans le pied au bazooka.
Oui, mais...
Ah ben non, justement.
Oui, mais enfin, vous êtes payé, vous êtes rémunéré. Comment ça se passe financièrement pour vous ?
Ah ben, la rémunération se fait principalement avec les revenus publicitaires sur les pubs qu'on voit avant les
c'est
vidéos.
C'est ça, sur la chaîne.
Voilà, mais c'est pas tel ou tel distributeur qui m'a contacté pour parler de tel ou tel film.
Donc vous vous sentez complètement indépendant dans vos propos encore aujourd'hui.
Ah, mais je le suis à 100%, oui. Et les rares fois où j'ai fait des collaborations avec certaines autres entités, c'était quand j'avais la garantie à 300% que j'étais complètement libre de ce que je disais et avec des gens et des choses que j'avais envie de recommander, avec lesquelles j'avais envie de m'associer. Par exemple, quand le musée du Louvre nous a contacté, deux autres créateurs de contenu et moi-même, pour Axolot et Nota Bene, sur l'histoire et les sources d'étonnement et tout ça, ils nous ont contactés en fait pour faire des vidéos dans le Louvre. On ne peut pas refuser ça, c'est absolument génial. Donc ça, c'était de l'ordre d'une collaboration à ce niveau-là, mais c'était vraiment un hors-série, quelque chose d'assez exceptionnel que je fais.
Et la base de tout, c'est que tu avais envie d'en parler, en fait. François.
Voilà, c'est ça. Donc là, ça
la sincérité était là. Alors, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on part pour Séoul, la Corée du Sud.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Comment parler du succès des vidéastes sans faire un petit détour par la Corée du Sud? Vous le savez, c'est considéré comme le pays le plus connecté au monde. Et il y a un phénomène pour le moins étrange qui a émergé parmi les youtubeurs, des mangeurs du net qui dévorent des montagnes de nourriture chez eux devant leur webcam. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Dicoche, non? Alors ça parle coréen, hein, pendant que des internautes paient pour les regarder manger en direct. Bonjour Frédéric Ojardias.
C'est une blague.
Bonjour Emmanuel. Bonjour.
Non, c'est pas une blague. C'est Dicoche là qui vous parle, Frédéric. Alors Frédéric, vous êtes correspondant RFI à Séoul. Vous avez déjà évoqué ce phénomène sur les antennes de RFI, mais je dois dire que le succès de ces mangeurs du net ne faiblit pas. Ça mérite qu'on y revienne. On les appelle les mukbang. C'est bien ça?
Oui. En fait, le mukbang, c'est la contraction des mots manger et diffuser. Et si vous vous connectez le soir sur le YouTube coréen, le site de streaming qui s'appelle Africa TV, vous trouverez des dizaines de personnes en train de dévorer des montagnes de nourriture dans leur chambre, devant leur webcam. C'est un spectacle qui peut même être un peu dérangeant parce que les quantités ingurgitées sont absolument énormes. Ces youtubeurs, ils en consistent pizza, poulet frit, soupe, brochette, friture, nouilles riz sautées. Et en mangeant, ils discutent avec les internautes dont les commentaires défilent en bas de l'écran.
Alors, pourquoi ces internautes, finalement, regardent un spectacle aussi trivial que celui de quelqu'un qui mange?
Alors, j'ai posé la question à l'un de ces mangeurs du net. Il s'appelle Romin Su, il a 37 ans, il est diplômé d'histoire et il a aujourd'hui 36 000 abonnés à sa chaîne. Il vit chez ses parents et il se filme en train de manger dans sa chambre un jour sur deux, de 23h à 2h du matin. Et Romin Su explique le succès des mukbang par un sentiment croissant de solitude chez les Coréens.
De plus en plus de gens vivent seuls et beaucoup sont obligés de manger en solitaire. En regardant un mukbang, ils ont l'impression de partager un repas avec quelqu'un. Pendant mon émission, mes spectateurs me disent « Essayez de mélanger ça avec ça et manger, c'est bon !» Et ça leur fait se sentir bien. Il y a aussi beaucoup de gens qui font un régime et ils ne mangent pas. Mais ils mangent par procuration en me regardant.
Et pourquoi vous diffusez votre émission si tard, le soir, à partir de 11h?
Ma spécialité, ce sont les soupes de nouilles, les ramyons. Les gens aiment bien manger des ramyons le soir avant d'aller se coucher. C'est à ce moment-là que je diffuse. J'ai essayé plutôt à 8h ou 9h, mais c'est à partir de 11h que j'ai le plus de spectateurs.
Alors est-ce que cette activité de mukbang, manger en direct devant des internautes, le permet de gagner sa vie, Frédéric Ojardias, à Séoul?
Oui, alors Romin Su, le youtubeur qu'on vient d'entendre, il insiste beaucoup sur le fait qu'il ne fait pas que manger, il discute aussi politique et société, il interagit avec ses followers, et ceux-ci le remercient en lui envoyant d'un petit clic des Star Balloons, alors c'est une espèce de monnaie virtuelle qui est propre au site Africa TV, et qui s'échange contre espèces sonnantes et trébuchantes. Romin Su, il a aussi des sponsors, des restaurants ou des services de livraison à domicile. Il gagne environ 2000 euros par mois, et en croire la presse coréenne, certaines stars du mukbang peuvent gagner beaucoup, beaucoup plus.
Et quelle est la spécificité de ce site coréen de streaming? Alors, ça se prononce Africa TV, mais rien à voir avec le continent africain.
Rien à voir avec le continent africain. C'est le free de libre. En fait, tout ça en direct sur ce site, il y a peu de vidéos montées et ensuite mises en ligne comme sur YouTube. Il compte 2 millions de visiteurs uniques par jour et 40 000 youtubeurs. Alors que les Coréens, ils appellent ça des BJ, des broadcast jockeys. Une autre spécificité d'Africa TV, c'est que contrairement à YouTube, ces BJ ne sont pas rémunérés grâce à la publicité, mais grâce à ces donations. cette donation des internautes, les fameux Star Balloons qu'on peut envoyer d'un petit clic, et se promener le soir sur Africa TV, c'est une expérience assez fascinante. Vous tombez sur des gens qui jouent aux jeux vidéo, d'autres qui donnent des cours de maquillage, qui font du yoga, on parle politique, on joue de la musique. Au-delà du mock porn, qui est un peu le phénomène le plus spectaculaire, les thèmes des émissions sont très variés.
Et ces youtubeurs qui se font connaître via le net, sont-ils aussi repris ensuite par la presse traditionnelle, la télévision, les journaux?
Alors, les stars du mukbang, non. Leur talent de mangeur, il reste cantonné au net. Mais certains youtubeurs célèbres, notamment ceux spécialisés dans le maquillage, ont acquis une célébrité qui dépasse largement le web. C'est le cas de Pony. Elle a 2,5 millions d'abonnés sur YouTube. Elle a publié 3 livres. Elle est considérée comme la gourou du maquillage en Corée du Sud. Et puis, ce qui est aussi fascinant, c'est que la télévision commence à essayer d'adopter les recettes des youtubeurs, comme par exemple My Little Television. Alors, c'est une émission qui est d'abord diffusée en direct sur un site web. Il y a 6 célébrités qui sont placées chacune seule dans une pièce face à un écran et une webcam. Et les internautes interagissent avec elles, ils leur posent des questions, ils leur demandent de chanter, de danser, c'est assez rigolo. Et les meilleures séquences de l'émission sont ensuite montées et diffusées sur une grande chaîne de télévision à 1 heure de grande écoute le samedi soir. Et c'est une émission très populaire parce qu'elle a réussi à combiner avec succès l'interactivité et la proximité propre à Internet avec des contenus et une production de qualité. Non pas qu'il n'y ait pas de qualité sur Internet, mais voilà.
Et vous, Frédéric Ojardias, alors quand est-ce que vous vous y mettez? Vous pourriez faire découvrir aux Coréens, je sais pas, les bons petits plats français en direct de Séoul, non? Faire un petit mukbang.
Je suis déjà en surpoids, j'ai pas trop commencé à faire du mukbang.
Ça demande beaucoup de temps, évidemment. Hein, manger en direct 3 heures par jour ou 1 jour sur 2. Merci beaucoup d'avoir été en direct chez 7 milliards de voisins, Frédéric Ojardias de Séoul. Comment vous réagissez les uns et les autres? Dikosh, vous aviez l'air très intéressé par ces pratiques sud-coréennes. Ça va vous inspirer pour vos prochaines vidéos?
Bah, je savais pas qu'on pouvait être rémunéré de sa gourmandise. Du coup, je crois que je vais me lancer, moi aussi, dans les mukbang, c'est ça?
Oui. Mukbang, si j'ai Dikosh, il y a une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Epic Mealtime. Ils ont 7 millions d'abonnés.
Et ils se filment manger?
Et ils se filment en train de manger des choses immondes, en fait, voilà. Énormes. Voilà.
Donc ça y est, c'est pas propre à la Corée du Sud.
Ils mettent un poulet dans un bœuf et ils mangent, ils font griller tout ça et ils le mangent.
Enfin, Epic quoi, ça s'appelle?
Epic Mealtime.
Oh là là.
Solange, vous êtes avec nous à Lille.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de ces pratiques-là par rapport à ce que vous faites?
Je connaissais, en fait. Je pense que c'est directement l'intimité qui est convoquée là et je comprends. Après, moi, je le ferai pas parce que... Enfin, moi j'ai vu des documentaires. Enfin, évidemment, les gens prennent du poids. Enfin, ça met en péril leur santé. Du coup, ils passent leur journée à faire du sport pour compenser la nuit qui vient. Et c'est un peu, ça devient absurde. Mais je comprends ce phénomène de solitude, d'être seul, de manger seul et d'être rassuré par la vue de quelqu'un qui mange avec vous. Ça, je peux comprendre.
Et pour vous, vous êtes toujours avec nous, François Torel?
Absolument.
Vous comprenez bien le phénomène.
Je suis d'accord avec Ina. Bah, de toute façon, Internet, c'est ça qui est beau et effrayant à la fois, c'est que quoi qu'on puisse imaginer, ça a été fait ou ça va être fait. Donc, quoi qu'il arrive, c'est le rapport d'intimité qui fait que, il y a des gens qui. C'est plus juste découvrir du contenu, quoi. C'est partager une intimité ou plutôt une sensation d'intimité avec quelqu'un. Donc, quelle que soit la forme que ça prend, je peux comprendre qu'il y ait cet attrait.
Aujourd'hui, alors ceci dit, pour aller au-delà de ce que vous faites sur Internet, votre notoriété aux uns et aux autres, elle va bien au-delà du net. Vous êtes copié, vous êtes contacté. Sur quoi ça débouche, Dikosh?
Sur quoi ça débouche? Moi, par exemple... Aujourd'hui, mes vidéos sur Internet m'ont permis d'avoir ma première chronique télévisée avec Claudie Ciard qui travaille justement ici, de réaliser mes propres vidéos, d'être rémunéré en tant qu'auteur, de décrocher des rôles de comédien. Donc ça reste toujours un tremplin.
En fait, aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement un vidéaste, vous êtes un artiste à part entière.
Oui, c'était... Après, je ne sais pas comment est-ce que mes confrères là, ici présents, virtuellement présents, voyaient Internet, mais moi je le voyais comme un tremplin, comme un moyen de dire aux gens, voilà, je sais faire ça.
Solange, ça débouche aussi sur autre chose, sur d'autres étiquettes que simple vidéaste?
Oui, bien sûr. J'ai pu faire un premier long métrage qui est sorti l'an dernier, Solange et les vivants. J'ai publié deux livres, j'ai travaillé à Radio France, j'ai pu développer ma petite carrière de comédienne. Maintenant, je suis en résidence d'art contemporain dans le nord de la France. Donc, c'est vraiment une manière d'imposer ma patte, en fait, en tant qu'artiste pluridisciplinaire.
Ça veut dire que les uns les autres, vous êtes complètement aujourd'hui, financièrement parlant, tout à fait à l'aise par rapport à ce que vous créez.
Let's talk about the money.
Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire.
Ouais, non,
d'une autre façon.
Oui, enfin.
Ça rapporte gros, Dicoche.
Est-ce que ça rapporte gros assez pour vivre, hein, mais Dieu merci, en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas été tous les jours simple. Mais aujourd'hui je vis de ma passion, de mon activité de comédien, de réalisateur, blablabla.
Stéphane Bouillet, on va laisser peut-être planer l'illusion que tout le monde peut gagner sa vie grâce à des vidéos sur Internet. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
C'est vrai et c'est très dur. Quand on dit qu'il faut 5 ans pour monter sa chaîne, c'est beaucoup, beaucoup de travail et il faut s'en rendre compte. Donc il y en a quelques-uns qui arrivent à en vivre.
5 ans, alors qui croit encore qu'il y a une immédiateté sur Internet ?
Oui, enfin,
5 ans pour monter sa chaîne.
À part quelques exceptions, c'est ce qui arrive, ça met beaucoup de temps et Solange le disait, ou Dicoche aussi,
ça fait longtemps. Je ne dis même pas de ma chaîne, moi, c'est ça. C'est pas ma chaîne qui me rémunère, si vous regardez l'activité sur ma chaîne. C'est pas ce qui me rémunère. Ça me permet de. C'est un peu ma vitrine, ma chaîne, mais ce qui me permet de travailler à côté, enfin de vivre, c'est tout le travail que j'effectue aussi à côté, grâce à des vidéos qui m'ont rendu populaire sur Internet, bien sûr.
Parce que vous le disiez, une vidéo, vous nous racontiez ça pendant le flash, et les auditeurs n'en ont pas profité, mais vous pouvez mettre presque une semaine à produire une vidéo.
Ouais, bah oui. Enfin, si je compte le temps que je passe sur une vidéo, oui, ça peut prendre énormément de temps.
Alors, on n'a pas encore parlé de politique, mais pourtant, sur cette chaîne de vidéos, même les politiques s'y mettent.
Bonjour, on est ici au QG de Marine Le Pen, et je viens de lancer ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube pour faire les carnets de campagne de Marine Le Pen, en quelque sorte pour vous montrer les coulisses de cette campagne. Vous ferez un de ces quatre visiter d'ailleurs les lieux, les locaux, c'est pas très grand, mais ça vaut le coup. Évidemment, si ça vous intéresse, vous vous abonnez, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, à bientôt.
Déjà, je vais parler de cette chaîne YouTube, puisque en un mois, nous avons gagné 40 000 abonnés. Ce qu'on est en train de faire ensemble, ceux qui s'abonnent, et moi qui viens faire ces revues de la semaine, c'est pas juste une petite opération d'un homme politique qui réussit son coup. C'est que réellement, on est en train de faire une démonstration. La démonstration, c'est qu'il y a un monde qui s'organise complètement en dehors des médias officiels.
Voilà, vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, Florian Philippot, aussi vice-président du Front National. Alors, les politiques sont-ils des youtubeurs comme les autres, c'est-à-dire aussi crédibles que vous autres, ou pas, Dicoche ?
Est-ce qu'on utilise le terme youtubeur pour les politiques et ensuite je pense
en tout
que
cas, ils contre... font comme vous.
Ouais, enfin après je pense que c'est un média comme un autre tout simplement et c'en est la preuve que les politiques s'y intéressent, ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie audience de vraies personnes derrière tous ces abonnés.
C'est une manière de s'affranchir des journalistes aussi d'enlever un filtre, c'est ce qu'on fait nous aussi, c'est-à-dire qu'on s'assure que le message, on le produit, il est directement livré au destinataire sans filtre.
Alors évidemment, dans un pays où il y a une presse tout à fait libre et indépendante, ça pose une vraie question et ça remet vraiment en question la presse. Je vous lis le message aussi d'Ahmed, lui qui nous écrit du Soudan et qui nous dit sur YouTube, beaucoup de jeunes ont créé leur chaîne pour critiquer la difficile liberté d'expression. Les sujets abordés post-Ahmed sont différents, on parle de politique, on parle de vie sociale, de chômage, de clichés, ce sont surtout les jeunes et les adolescents qui s'intéressent et qui s'informent. Et vous, Dicoche, aujourd'hui, qui est votre public ?
Je pense qu'il est de tout âge, bon, forcément un peu plus jeune que vieux, puisque on reste quand même sur Internet, mais j'ai l'occasion de croiser des fans dans la rue, et je peux très bien parler à une personne de mon âge, comme à une personne plus grande, comme à des personnes un peu plus jeunes.
Ouais. Solange, on vous reconnaît aussi dans la rue en France ?
Oui, ce matin même, en venant au studio, dans le métro, on m'a salué.
À Lille ?
Oui, à Lille.
Et vous, François Torel ?
Oui, complètement. Mais je voulais juste rebondir très rapidement sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que Internet soit un tremplin vers d'autres médias. Personnellement, je ne fais pas de hiérarchie entre les médias. En fait, aujourd'hui, vidéaste, c'est, sur le web, c'est devenu un métier à part entière. Mmh. Et Internet peut tout à fait être une fin en soi et pas un tremplin vers autre chose. Il y a encore cette notion comme quoi c'est forcément un tremplin vers des médias, d'autres médias plus, entre guillemets, légitimes ou plus respectables. Alors que non, vraiment, c'est devenu un média ultra important. Et c'est pour ça aussi que les politiques... Forcément, ils vont ouvrir des chaînes YouTube et forcément, ils voient à quel point ça touche beaucoup de gens, quitte à parfois atteindre certaines dérives, parce que c'est toute la pipolisation des politiques qui va avec. Donc, c'est un outil vraiment à utiliser comme tel, quoi. Soit bien, soit...
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien. Je ne sais pas si tu réagis à ma remarque de tout à l'heure, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est un tremplin dans la conception que j'avais de ma carrière, en fait, parce que je voulais aller plein d'autres choses. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est un média comme un autre, et c'est ce que je disais, c'est bien pour ça que les politiques s'y intéressent aujourd'hui.
Ouais, après, il n'y a pas de saut média, quoi. Hein. De toute façon, on peut tout à fait se faire des super trucs à la radio ou à la télé. C'est juste que les conditions de production sont un petit peu différentes sur le web. Ça permet plus de liberté, plus directement, le web. Donc après, en fonction de ce qu'on fait, bien sûr, voilà. Encore une fois, je ne fais pas du tout de hiérarchie entre les médias.
C'est un média qui touche peut-être aussi plus les jeunes. Et donc, c'est pour ça que les politiques vont dessus. C'est parce que les jeunes regardent beaucoup moins la télé, voire passent moins de temps à regarder la télé qu'à être sur les réseaux sociaux.
Et alors, comment ça va évoluer dans les années à venir, Stéphane Bouillet ?
Alors, il va y avoir encore plus de réseaux sociaux qui vont arriver, on ne sait pas lesquels. Comme on disait tout à l'heure, il faut être agnostique à YouTube, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est d'autres réseaux qui arrivent. Notre vision, c'est de dire qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront suivis, d'influenceurs, et qui vont être créatifs. Donc voilà, tout ça, ça va continuer à évoluer, et ce sera un média supplémentaire, il ne faut pas opposer les médias, c'est un média supplémentaire.
Vous êtes stressé parfois ? Quand on arrive haut dans le succès, comme c'est votre cas, à vous tous, Dicoche ?
La seule chose qui me stresse, c'est de ne pas pouvoir offrir une vie convenable à mon fils. Après, le reste, non, j'ai déjà stressé.
Bon, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. En tout cas, merci à vous, Dicoche, Ina Mihalash, alias Solange te parle, François Terrel, le fossoyeur de films, et Stéphane Bouillet, fondateur d'Influence for You, agence créée pour aider les youtubeurs à trouver des sponsors. Merci à vous tous. Demain, 7 milliards de voisins. Les métiers de la finance font-ils encore rêver les jeunes ? Tiens, justement, vous en venez, Dicoche. Claire et